La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Au menu de notre club cet après-midi, un petit manuel sur le sexisme dans les milieux scientifiques et puis un projet international pour promouvoir la place des femmes en sciences. Et sur ces deux thématiques communes, je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Et bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui le paléoanthropologue Michel Brunet qui s'exprime pour la première fois en direct sur cette affaire de fémur autour de Toumaille.
Oui Mathieu, il est avec nous et il a accepté de répondre à toutes nos questions pour tenter d'y voir un peu plus clair sur cette polémique concernant nos origines. Il a apporté une grosse valise, on le retrouve dans un instant.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise ce club préparé aujourd'hui par Thomas Kalevitch.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard. Sur France Inter.
Et je salue nos invités du club, Isabelle Collet, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation, et Gaïa Dallariccia, chercheuse en comportement animal. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Isabelle Collet, vous allez nous présenter tout à l'heure Sexisman contre le sexisme. C'est un petit manuel drôle et instructif qui parle du sexisme dans les milieux scientifiques, mais qui concerne en particulier les mathématiques et le monde de la recherche. Hein.
Ben c'est tout à fait ça. Comme le dessinateur Philippe et moi-même étions scientifiques dans un premier temps, nous avions des choses à raconter sur la question de sexisme dans les sciences techniques, informatiques, etc.
Ouais. Et vous avez beaucoup de choses à nous dire à ce sujet. Petit manuel publié aux éditions Lapin. Gaïa Dallariccia, vous portez-vous un projet international pour promouvoir la place des femmes dans le domaine scientifique? L'idée, c'est de créer un réseau mondial de 1000 femmes scientifiques qualifiées pour contribuer en particulier aux politiques en faveur de l'environnement. Et vous partez en Antarctique là, dans quelques jours à peine, tout ensemble?
Oui, dans une dizaine de jours, je pourrai enfin rencontrer personnellement les autres 79 femmes avec qui je vais faire ce grand voyage et cette grande expérience.
Ouais, un mois de voyage, c'est ça
pour C'est vous un retrouver... mois de voyage autour de l'Antarctique pour essayer d'échanger le monde, d'échanger la société et faire du bien.
Vaste sujet hein, donc pour vous.
Ouais.
On va en parler dans quelques minutes avec les auditeurs qui nous rejoignent et les messages sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Un os et une polémique qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui à la une de la science. On revient sur la découverte de Toumaille.
Une découverte exceptionnelle au Tchad, celle du « nouveau doyen » entre guillemets de l'humanité. Un crâne de 7 millions d'années a été mis au jour. Bonsoir à tous. Cette très importante découverte en Afrique, il s'agit en fait d'un crâne, vieux de 7 millions d'années. Les théories sur la naissance de l'homme pourraient s'en trouver modifiées.
Pour ce paléontologue français, c'est la récompense de toute une vie. Au creux de ses mains, un crâne qu'il présente au président tchadien. Les restes du plus ancien représentant sur Terre de la lignée humaine.
Voilà, Toumaille, découvert en 2001 par les membres de la mission paléoanthropologique franco-tchadienne, le crâne exceptionnel, donc considéré comme le plus vieil ancêtre de la lignée humaine. 16 ans après, c'est donc un article publié dans Nature le 22 janvier dernier qui met le feu aux poudres. Roberto Macchiarelli, un paléoanthropologue de l'université de Poitiers, fait mention d'un os supplémentaire de Toumaille, un fémur jamais mentionné. Le scientifique publie une photo de ce fémur et pose de nombreuses questions sur une prétendue dissimulation de ce fossile et sur le caractère bipède de Toumaille. Pour en parler, Axel Villard, nous recevons aujourd'hui celui qui est considéré comme le père de Toumaille et qui est au cœur de la polémique.
Oui Mathieu, le paléoanthropologue Michel Brunet a accepté de venir dans ce studio aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez coordonné tous les travaux publiés sur ces restes exceptionnels depuis 2001. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui face à cette nouvelle polémique autour de vos travaux et face à ces accusations? C'est des accusations.
Oui, ben, vous savez... Je suis là pour faire de la science, pas pour faire de la polémique. D'ailleurs, c'est même pas de la polémique, c'est une cabale.
Vous
venez de parler là d'une cabale qui a été clairement montée, à la fois contre moi, mais malheureusement aussi, ça rejaillit sur le labo et sur les institutions. Alors, je voudrais dire, il ne faut pas exagérer. J'ai amené ici le 7 à Poitiers.
Un journal local.
Petit journal qu'on peut ramasser, qu'on trouve à Paris, à la sortie des bouches de métro. À Poitiers, on le trouve à la gare.
Alors, qu'est-ce qui se raconte dans ce journal, Michel
Brunet? Pourquoi écoutez, vous l'avez apporté? Je lis sur la couverture, Toumaille, une polémique mondiale.
Mm-hmm.
Oh là là. Je passe à l'intérieur. Toumaï, l'histoire du fémur oublié. Et alors, entre guillemets, je lis que l'auteur, le promoteur de cette cabale, a eu, je cite, le fémur quelques minutes sous les yeux. Quelques minutes sous les yeux. C'est-à-dire qu'on oppose quelques minutes sous les yeux. J'ai amené aussi une toute petite partie de nos publications.
Ce sont deux gros livres très épais, hein, pour les décrire aux auditeurs qui ne voient pas l'image.
De plusieurs kilos,
Michel Bonnet, pourquoi vous aviez envie de venir parler aujourd'hui au micro de La Tête au Carré?
Écoutez, pour montrer tout ça, plutôt que une polémique mondiale, je dirais plus volontiers une tempête dans un verre d'eau.
Sauf qu'il faut vous défendre aujourd'hui.
Me défendre contre quoi?
Alors on a des questions.
Alors vous avez dit que vous vouliez parler de science. Alors on va parler un peu de science et de ce fémur. On voit la photo partout dans la presse. Votre opposant l'a tenu quelques minutes dans ses mains. Est-ce que c'est bien le fémur de Toumaï? Est-ce que vous voulez bien le dire aujourd'hui?
Alors juste pour préciser, Michel Brunet a apporté le fémur original, daté de 7 millions d'années.
Quelque chose d'exceptionnel.
Le fémur de la discorde, on pourrait dire. Voilà, il est là avec vous, dans votre main droite.
Vous confirmez que c'est le fémur de Toumaï?
Non, je confirme que c'est un fémur qui a été trouvé dans le même site que le site qui a livré le crâne de Toumaï.
Donc ça, vous avez la réplique aussi dans la main.
Pourquoi vous avez choisi de le montrer maintenant? Il était caché jusqu'à aujourd'hui.
Non, il n'était pas caché. Il était en cours d'étude. Aujourd'hui, en le montrant, je perds toute possibilité, mais elle était déjà perdue avant, je perds toute la confidentialité nécessaire à une publication dans une revue à haut facteur d'impact.
Depuis quand vous êtes en train de l'étudier alors ce fémur, Michel Brunet? Parce que vous dites qu'il est en cours justement d'étude. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur cette étude alors, en
ça doit faire, j'ai compté, je ne me rappelle plus bien, mais ça fait moins de temps que Nami, mon collègue, le professeur Tim White, de l'Université de Californie à Berkeley, pour publier Ardipithecus ramidus.
C'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas au courant...
De l'ordre de la quinzaine d'années.
Quinzaine d'années.
Oui.
Axel Villard.
Michel Brunet, on s'est un peu replongé dans les archives. En 2003, vous avez rendu un rapport à l'Académie des sciences sur votre mission au Tchad et sur Toumaï, et vous dressez la liste des restes d'hominidés découverts par la mission. Et je vous cite, vous citez un crâne, deux fragments de mâchoire et trois dents isolées. Je vous pose la question, pourquoi ce fémur n'est pas dans cette liste?
En quelle année?
2003.
2003.
Il est là.
Vous voulez que je vous réponde à ça?
Je pense que c'est la question que tout le monde se pose.
Alors ça, c'est un document dont vous êtes le premier signataire avec toute votre équipe, qui a été remis donc à l'Académie des sciences à l'époque et qui fait la liste justement de ce qui a été retrouvé sur le site. Et le fémur donc n'y figure pas, effectivement, parmi les fossiles retrouvés. Alors pourquoi justement, Michel Brunet?
Alors, écoutez, on a dû mettre au jour plus de 20 000 spécimens, d'accord?
Uniquement sur le site de Toumaï?
Vous dites 10 000 vous dites 10 000 spécimens et dont 5 qui sont attestés des hominidés.
Alors, pour vous donner un ordre d'idée, entre le moment de la découverte et maintenant, au moment de la découverte, quand on a publié ça, il y avait à peu près une trentaine d'espèces associées à Toumaï, 30 espèces animales. Maintenant, on est rendu à une centaine d'espèces animales. Ça prouve, un, qu'on a travaillé dur. Ça prouve, deux, que, il y a encore beaucoup à faire.
Sauf que, est-ce qu'un fémur, quand même, c'est une pièce de choix, surtout quand on parle de Toumaï?
Alors, attendez,
quand on travaille sur la bipédie, Michel Brunet, quand même.
Oui, mais un fémur, c'est un os long, et il y a une diaphyse et deux épiphyses.
Donc ça, c'est les extrémités.
Ça, c'est un fémur humain, actuel.
Que vous avez dans la main.
Ça, c'est un fémur d'un gorille actuel. Il y a une épiphyse inférieure, une épiphyse supérieure. Ce sont ces épiphyses qui sont très diagnostiques. La diaphyse l'est, mais beaucoup moins.
Ça veut dire quoi, pardon?
Qui ont des caractères permettant de dire très clairement si on a affaire à un bipède
ou pas.
ou pas.
Et là, en l'occurrence, le fémur de la discorde que vous avez apporté, je le rappelle, n'a pas d'épiphyse.
Il n'a pas d'épiphyse. Néanmoins, l'insertion des muscles, disons fessiers, sans sous la taux, permet d'avoir une idée.
Et alors, quelle est l'idée ?
Alors, écoutez, là, vous me gênez, c'est pas publié. Mais c'est pas, je dirais, que c'est pas en contradiction notoire avec ce qui est déjà publié par ailleurs.
Donc ça voudrait dire que, si j'interprète bien ce que
vous... Ça veut rien dire, ça veut dire que c'est pas en contradiction.
Donc ça pourrait être un fémur de bipède, c'est ce que vous dites. Alors que, précisément,
attendez,
Roberto Maccarelli dit c'est un bipède de grand singe, donc d'un animal...
Mais il le dit en quelques minutes, pour vous dire ce que je viens de vous dire. Je suis allé faire des comparaisons à Tempe, en Arizona. Je suis allé à Kent State University, en Ohio. Je suis allé à Berkeley, à l'Université de Californie. Je suis allé à Harvard, Cambridge. J'ai fait toute une tournée aux États-Unis. Ça m'a pris plus d'un mois. Mais bien sûr, en quelques minutes, on peut effectivement monter une polémique mondiale. Mais sûrement pas, et j'insiste, sûrement pas, en quelques minutes, on peut pas monter de la science. Ça, c'est de la science.
Les documents sur lesquels vous avez travaillé.
Et ça, c'est quelques secondes de polémique.
Voilà, le journal de Poitiers, en l'occurrence. Axel, question.
Je reviens sur ce rapport en 2003, une dernière fois, avec une autre citation qui est de vous. L'absence de restes osseux des membres de Toumaï ne permet pas de dire si Toumaï était bipède. Est-ce qu'à ce moment-là, en 2003, vous n'aviez pas identifié que ce fémur était celui de Toumaï? Ou alors est-ce que vous avez choisi de ne pas le citer?
Non, je n'ai pas choisi de ne pas le citer. J'ai pas... si vous voulez, les informations qui sont fournies à ce moment-là sont suffisantes pour ce qu'on voulait faire.
Donc vous avez sélectionné, c'est ça que vous voulez dire?
Oui.
Suffisante.
Oui,
donc il y a une sélection.
Oui.
C'est comme ça qu'on fait la paléanthropologie, on sélectionne ce qui nous plaît pour mettre dans la publication. Non mais c'est une question que je vous pose.
Écoutez, alors je vais vous dire franchement, si vous me posiez la question sur que fait tel collègue ou tel collègue, je n'en sais rien. Il y a quelques règles qu'on doit respecter, qui sont les règles pour tout le monde quand on fait des sciences. Ce sont des règles d'éthique. Alors, je vais vous parler d'une chose, encore, plus claire. L'auteur de la Kabbale, il
Roberto Maccarelli, c'est son nom. Hein.
Je ne sais pas.
Ben, sinon, on le sait, c'est ça.
L'auteur de la Kabbale, il ne fait pas partie de l'équipe qui, au Tchad, étudie, est chargée d'étudier les fossiles. Il n'appartient pas à la mission paléo-anthropologique franco-tchadienne. Bon,
vous dites cet homme, vous ne le nommez pas. Est-ce que c'est un règlement de compte? Est-ce qu'il a une dent contre vous? Vous avez une dent contre lui? Il y a quelque chose de plus dans cette histoire?
Il n'y a pas que de la science, Michel Brunet.
J'en sais rien. Je suis venu ici pour parler de science.
Vous allez aujourd'hui.
Pas de commentaire à faire.
Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la bipédie de Toumaï et sa place de premier représentant dans notre lignée fait toujours aucun doute?
Bien évidemment. Alors, si c'est la question que vous posez, je persiste, je signe. Je vous laisse cela, si vous voulez, et vous pouvez inviter.
Oui. Vous en avez pour 3 mois accès à les lire, hein, au
moins. Je vais y aller.
Non, il est clair, il est parfaitement clair. Quand vous avez un crâne comme ceci, quand vous voyez la bascule occipitale,
c'est le crâne de quel est l'individu que vous avez entre les mains, Michel Brunet?
La reconstitution de Toumaï.
Voilà.
Et quand vous mettez à côté un crâne comme ceci, vous avez une face occipitale qui est très relevée, avec une colonne vertébrale qui est beaucoup plus postérieure, c'est clair.
Donc ça veut dire que pour vous...
L'architecture de ce crâne est une architecture bipède. L'architecture de ce crâne qui était une gorillette est... quadrupède.
Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de plus pour dire que Toumaï est bipède.
J'ai pas dit qu'on n'avait pas besoin de plus, mais c'est un argument qui est déterminant.
Mais alors, excusez-moi, Michel Brunet, mais ce fémur, il est attribué à qui alors finalement? à Toumaï ou pas à Toumaï?
Ah, il n'est pas attribué à Toumaï. Toumaï, c'est le nom qui a été donné par le président de la République du Tchad à ce crâne. Le crâne s'appelle Toumaï. Le fémur, il peut, dans le meilleur des cas, appartenir à la même espèce que Toumaï.
Mais ce n'est pas le fémur de Toumaï.
J'en sais rien et personne n'en sait rien. Personne, scientifiquement, n'en sait rien.
Aucune analyse aujourd'hui. La technologie ne permet pas justement de... Il n'y a plus d'ADN évidemment là-dedans.
En paléontologie, pour pouvoir dire que deux os appartiennent au même individu, en toute logique, il faut les trouver en connexion anatomique. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, toutes les connexions anatomiques ici sont perdues, les épiphyses n'existent pas.
Il y a une photo qui a circulé dans la presse depuis deux semaines, c'est celle d'Alain Beauvilain, prise en 2001 au Tchad, et montrant côte à côte le crâne et le fémur au milieu des restes découverts sur le terrain. Est-ce que cette photo est authentique? Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire?
Elle est un peu trompeuse d'ailleurs, parce qu'on voit le crâne de Toumaï et donc les fossiles autour qui laissent penser que ces fossiles appartiennent à Toumaï. Or, donc, ce n'est pas le cas.
Cette photo, si vous regardez bien, est une photo montage. C'est une photo qui regroupe des fossiles qui ont été collectés, puis reposés les uns à côté des autres, sur le sable, et puis on a fait la photo.
C'est pas comme ça qu'ont été trouvés les morceaux?
Bien sûr que non! Bien sûr que non!
Et on n'était pas sur place, nous engueulez pas Michel Bonnet.
Mais j'engueule personne.
On n'était pas là, nous.
Mais non, mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est que quelqu'un qui prétend être paléo-anthropologue puisse utiliser une photo de ce type, alors que on voit bien, quand on a été un peu dans le désert, pour ma part j'y étais un peu plus de 50 ans, on voit bien que c'est une photo qui représente un assemblage d'ossements. Tous ces ossements, ils viennent sans aucun doute du même site, ils ont été trouvés là, mais j'ai lu dans la presse, ce que j'ai cherché moi aussi à comprendre, ce qu'on voulait faire, j'ai lu, dans, je ne sais plus qui, mais c'est marqué, on peut le trouver, que ce fémur a été trouvé à quelques centimètres du crâne, je crois qu'il y avait 3 ou 4 centimètres, j'ai lu dans un autre papier que ce fémur avait été trouvé à 100 mètres.
Et alors, il a été trouvé à combien, à quelle distance?
Je n'en sais rien.
Robert Macarelli se plaint qu'on ne se soit pas intéressé à ce fémur plus tôt. Il a essayé justement de demander qu'il soit exposé.
Ça reste son problème.
À la Société d'anthropologie de Paris, qui était réunie d'ailleurs à Poitiers la semaine dernière, on lui a refusé l'accès. Pourquoi Michel Brunet, ce monsieur, est persona non grata aujourd'hui?
J'en ai absolument aucune idée. Je ne suis pas membre de la Société d'anthropologie de Paris. Je n'ai pas assisté au congrès dont vous parlez. Je ne sais pas. J'ai entendu parler de cette histoire, mais...
Écoutons Roberto Macarelli quelques secondes.
C'est l'horreur. J'ai du mal à en parler. Ils m'ont mis sous la touche. Ils m'ont accusé de fouiller dans les couloirs. C'était l'expérience humaine la pire de ma vie. Ma hiérarchie m'a même envoyé un message de « s'il te plaît, tais-toi ».
Comment est-ce que Roberto Macarelli a eu accès à ce fossile?
Alors, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée dans la mesure où cet accès s'est fait alors que la plus grande partie du laboratoire était dans le désert. Comment a-t-il eu accès?
Il y a quand même l'histoire raconte qu'il y a Aude Auberger, qui est une jeune étudiante, qui en 2004 justement effectue un stage dans votre laboratoire, Michel Bonnet. Elle était chargée de retracer ce qui était arrivé aux différents zoos d'animaux retrouvés au Tchad.
Et au cours de ses travaux,
elle s'est interrogée sur ce fémur justement.
Oui, parce qu'il se trouve que sur ce fémur, il y a un certain nombre de traces qui sont assez bien marquées et qui sont des traces de, sûrement des dents d'Hystrix.
Qu'est-ce que c'est?
Porc épic. Et Il était intéressant, c'est pas moi le maître de stage, hein, mais il était intéressant d'avoir une idée de ce qu'on appelle la taphonomie, c'est-à-dire de tous les événements qui s'étaient passés entre la mort et la fossilisation. Et cette idée était d'autant plus intéressante si on ne disait pas à l'étudiant ou l'étudiante de quoi il s'agissait. C'était un os de mammifère, peu importe. Mmh. L'Istrix, quand il a mangé cet os, il savait pas qu'il mangeait du toumaï ou s'il mangeait du bovidé ou du carnivore. Il en savait rien. C'est pas d'important. De toute manière, c'est pas ce qu'on est en train de rechercher. C'est pas ce qu'on est en train de rechercher. Mais, avec ce que je viens d'entendre, je voudrais préciser alors une autre chose. Le recrutement de l'homme qui vient de parler a été fait à Poitiers alors que j'étais directeur du laboratoire CNRS. Il a été recruté, tout s'est bien passé, et alors qu'il venait d'être recruté, j'ai appris par des collègues qu'il avait fait une fouille en Éthiopie sur un site où il n'avait pas de permis de recherche, qui était le site d'un autre collègue éthiopien, justement un site qui a livré Ardipithecus cadaver.
Vous parlez de Roberto Macchiarini.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez fait en apprenant cela?
J'ai parlé avec lui.
Et vous avez cessé de travailler ensemble à partir de ce moment-là ou pas?
Oui. Ouais. Oui. Oui, c'était plus possible.
Ouais. Michel Brunet, donc on voit
bien... Il y a des règles qu'on se doit de respecter. Si on ne les respecte pas, alors il faut changer de métier. Ces règles sont pour moi d'une importance énorme, énorme. Si vous ne respectez pas l'éthique, alors tout est ouvert. C'est, imaginez, à Paris, les voitures, les conducteurs, et pas de permis de conduire, pas de code de la route.
Donc vous accusez Monsieur Macchiarini d'avoir...
J'accuse personne.
D'avoir manqué d'éthique quand même, c'est grave.
Sur ce sujet-là, précis, oui.
Donc, Axel Villard.
Donc toute cette histoire de fémur, c'est simplement un règlement de compte, c'est ça que vous voulez dire?
Non, bien sûr que non. Fémur n'a rien à voir, mais ce fémur, il est étudié par les gens qui regardaient les traces de morsures. Il est étudié par les gens de la mission paléoanthropologique franco-tchadienne. J'accuse personne.
Michel Brunet, vous disiez c'est une cabale tout à l'heure, c'est le mot que vous avez employé. C'est une cabale contre moi. Est-ce que vous allez engager des poursuites judiciaires ou pas?
Écoutez, on le verra bien, j'en sais rien, mais vous savez, quand on lit le blog du Monde, ou hébergé par le Monde, pardon, hébergé, le blog hébergé par le Monde, peut-on imaginer que ce n'est pas une cabale? Si vous préférez règlement de compte, je veux bien. Mais bon, enfin, j'ai eu je ne sais combien de coups de fil de collègues. Il y a même dans cette presse des confrères à vous qui ont dit « Ah non, quand même, trop, c'est trop. Non. »
Quand est-ce que vous allez publier alors maintenant sur ce fémur? Même si c'est pas dans une grande revue comme vous le disiez tout à l'heure parce que vous en êtes empêché.
Je ne sais pas. Mais écoutez, si moi je venais là et si je vous disais Mathieu Vidard, quand allez-vous faire cette émission? Je veux que vous la fassiez là. Et vous me diriez, Brunet, vous mêlez de quoi là?
C'est quand même le plus vieil ancêtre, en tout cas aujourd'hui, de la lignée humaine. Tout le monde va attendre ses travaux. Va bien falloir qu'il soit publié quelque part et qu'il puisse être lu. J'imagine que les grandes revues vont en vouloir après toute cette polémique.
Les grandes revues n'en voudront plus.
Mais tout le monde va vouloir savoir.
Mais non, les grandes revues n'en voudront plus. La confidentialité de cet objet a disparu.
Parce qu'effectivement, les photos ont circulé aujourd'hui, vous êtes avec ce fossile dans ce studio.
En 2004, la photo de ce spécimen est apparue, à ma grande surprise, sur le blog d'un jeune collègue nord-américain. Et cette photo venait de mon laboratoire, de mon propre laboratoire. Bizarre, non ?
Michel Brunet, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui en direct pour en dire un peu plus sur ce qui a beaucoup fait parler ces derniers jours autour donc de ce fémur qui n'est pas celui de Toumaï, en tout cas pour l'instant. Merci pour vos explications et bon retour à Poitiers. Axel Villard, à lundi avec une nouvelle Une. Sun is rising. Otsuki à l'instant.
La tête au carré. Le club.
Voilà, dans notre club cet après-midi, un petit manuel sur le sexisme dans les milieux scientifiques et puis un projet international pour promouvoir la place des femmes en sciences avec donc mes invités Isabelle Collet et Gaïa Della Riccia. Isabelle Collet, vous êtes maîtresse d'enseignement et de recherche en sciences de l'éducation. Alors c'est l'équivalent suisse de maître de conférence habilité à diriger les recherches pour la France. Vous êtes membre du groupe de relations interculturelles en formation des enseignants, genre et éducation. C'est à l'Université de Genève et donc vous venez nous présenter ce petit manuel « Sexisme man contre le sexisme » qui est publié aux éditions Lapin. Et puis Gaïa Della Reccia, vous êtes chercheuse en comportement animal et photographe, et vous allez nous parler tout à l'heure donc de ce projet international pour promouvoir la place des femmes dans le domaine scientifique et dans les politiques environnementales en particulier. Isabelle Collet, on commence donc avec vous, avec ce manuel publié avec le dessinateur Philippe.
Philippe,
c'est son nom. Comment est-ce que vous avez eu l'idée alors de ce petit recueil qui à la fois nous fait beaucoup rire mais qui nous interroge aussi gravement sur la situation, hein?
Eh bien, il y a une journée parité dans les mathématiques qui a été coordonnée par Indira Chatterjee qui fait la préface,
oui,
et qui est une mathématicienne. Et nous nous sommes retrouvés tous les deux, moi, à faire une conférence et lui à faire des petits dessins pendant la conférence. Bon, il se trouve que je connaissais son travail depuis longtemps. Et à la fin de la conférence, et c'est d'ailleurs ce qu'il raconte dans la BD semi-autobiographique de ce livre,
oui,
à la fin de la conférence, il m'a dit « Mais c'est quand même incroyable, je m'étais rendu compte de rien, et si on faisait un livre ?» Alors moi, ça m'a fait rire. Et je lui ai dit, top là, on fait un livre.
Alors, vous donnez d'abord, parlez-nous un peu de ces cours, cette formation auprès des enseignants sur la pédagogie de l'égalité. Alors, on n'a pas ça en France?
On devrait.
Oui.
Alors, effectivement, je fais quelque chose de tout à fait extraordinaire à Genève, vu que je forme les futurs enseignants et enseignantes de primaire et de secondaire à exercer au quotidien une pédagogie de l'égalité, c'est-à-dire que de manière obligatoire, ils viennent dans mes cours et ils reconsidèrent leur façon d'être enseignants et enseignantes, mais avec cette idée que peut-être leur façon de faire jusqu'à présent était moins égalitaire qu'ils ne le pensaient.
Depuis combien de temps que ça existe maintenant?
Alors à Genève, je fais ça depuis 2010.
Ouais, Gaïa Della Reccia, on ferait bien de s'en inspirer, non? En France, une excellente idée, ça, non?
Oui, c'est sûr.
Ouais. Alors, faudrait emmener Isabelle Collet avec vous d'ailleurs en Antarctique.
Ouais, bah, hein. Elle serait la candidate parfaite pour la prochaine mission. Là, il y en a pour 10 ans de projet. Donc. Ouais.
Alors ça se fait en France. Hein. Malheureusement, toutes les ESPE qui sont les endroits où on forme les enseignants et enseignantes en France, loin de là, ne font pas ce genre d'enseignement. Alors si vous êtes à Créteil, vous en aurez un peu plus. Et puis dans d'autres ESPE, il y en aura un peu moins. C'est malheureusement très variable.
Ce qui se passe en ce moment autour des femmes avec la parole là, qui se libère, ce mouvement de fond hein, qui traverse toute la planète, est-ce que vous voyez des changements à la fois dans l'attitude des hommes, mais précisément sur ces questions d'égalité, là?
Alors oui, clairement, on voit des changements. Quand nous, on a démarré notre projet de livre, on était encore à des kilomètres de ces affaires-là. Là, on arrive dans l'actualité. Mais quand on a fait ce livre, mon idée de base était de dire beaucoup de personnes, dont beaucoup d'hommes, n'ont aucune envie d'être sexistes. Et ne se rendent pas compte quand parfois ils ont un certain nombre de comportements qui sont pas terribles. Et le FIP, le dessinateur, disait, oui, moi-même, quand j'étais ingénieur, eh ben oui, j'ai eu un certain nombre de comportements, vraiment j'aurais pas cru, mais quand je regarde mon parcours, je me rends bien compte que c'était pas ça. Et ce qu'il dit aussi, c'est que maintenant qu'il sait, il pourra plus faire marche arrière, il pourra pas le désapprendre. Et avec cette prise de parole, avec cette prise de conscience, je pense qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas désapprendre.
On va écouter ensemble un extrait des Figures de l'ombre sorti sur les écrans en 2016, dont l'intrigue se passe dans les années 60.
Alors comme ça, vous êtes calculatrice à la NASA?
C'est exact.
Qu'est-ce que cela implique?
Nous effectuons les calculs mathématiques nécessaires au lancement et atterrissage pour le programme spatial.
Ah, on peut dire que c'est du sérieux?
Oui, en effet.
On laisse des femmes se charger de toutes ces... Enfin, je me suis... mal fait comprendre.
Si j'étais à votre place, je ne dirais plus rien.
Je ne voulais pas vous manquer de respect.
Tous les jours de la semaine, j'analyse les relevés manométriques pour l'aérodynamique, le frottement et la vélocité. J'effectue plus de 10 000 opérations de calcul avec des cosinus, des racines carrées et de la géométrie analytique cette semaine. À la main. Alors oui, on confie des missions aux femmes à la NASA. Non pas parce que nous portons des jupes, mais parce que nous chaussons des lunettes.
Voilà, c'est toute la différence dans les années 60. Bon, il y a encore du travail à faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous racontez, vous Isabelle Collet, votre propre parcours, parce que vous étiez informaticienne au départ, et vous avez un peu renoncé à cette discipline pour ces raisons-là quand même.
Alors, à l'époque, j'en avais pas conscience.
Ouais.
Mais oui, effectivement, j'étais informaticienne. Et si j'avais trouvé un travail en informatique intéressant, stable, porteur, avec une carrière, je serais probablement devenue une informaticienne heureuse.
Ouais.
Alors maintenant, je suis une sociologue heureuse, hein, c'est pas si mal.
Et mais... vous étiez dans le peloton de tête de votre promotion, en plus. Hein.
Voilà, mais à un moment donné, j'ai eu le sentiment que j'étais pas à ma place et que je pouvais pas aller en master. Alors parfois on dit, les femmes s'auto-sélectionnent, elles osent pas. Non, en fait, c'est pas de l'auto-sélection, c'est que j'ai empilé un certain nombre d'expériences, j'ai entendu des remarques, j'ai eu des signaux qui m'ont donné à penser qu'au bout d'un moment, en fait, j'avais pas ma place ici.
Ouais. Et alors l'informatique, c'est le milieu des mecs avant tout, hein.
Alors aujourd'hui, de plus en plus, hein, on a tendance. Ouais. On a tendance. Non, la géologie c'est pire, mais c'est vraiment les seuls.
Ah oui.
Et peut-être les maths pures. Non, on a tendance à dire que toutes les disciplines se féminisent, qu'il y a une espèce d'avancée globale et que si on touche à rien dans une génération, hop, on aura l'égalité. Non, pas du tout. L'informatique, on voit très bien qu'au contraire, on a eu une chute libre de la part des femmes.
Kaya Della Riccia.
Ouais, au fait, ça c'est un aspect très très important parce que pour une raison ou pour l'autre, on voit que jusqu'à la thèse, pendant les études, on est à peu près à l'égalité à 50% hommes-femmes. Et les plus on avance, les plus les pourcentages des femmes chutent. Pour une raison, voilà, absolument pas donnée par des capacités ou des choses. Et au fait, pour la société, c'est une perte énorme des compétences et un investissement parce qu'on a été formé juste là et puis à un moment donné, juste il y a une partie des compétences et des capacités qui disparaissent dans le rien. Ouais. Et c'est dommage.
Avec ces stéréotypes de genre qui sont bien ancrés dans la tête des femmes elles-mêmes, c'est ça qui est terrible au fond. Parce que vous dites qu'aujourd'hui, il faut absolument essayer de renforcer l'estime de soi, le sentiment des compétences des femmes, parce que le problème, il est là au fond.
Alors non, le problème, il est du côté de ceux qui sapent cette estime de soi.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire, je suis d'accord, il faut armer les filles, il faut qu'elles y aillent, qu'elles se battent, qu'elles aient confiance, etc. Mais s'il n'y a personne pour saper cette confiance en soi, évidemment, on a moins besoin de se battre. C'est-à-dire qu'actuellement, pour gagner autant, il faut qu'elle travaille plus en substance. Hein. Là aussi, c'est beaucoup de pertes, donc gâchis de compétences, comme vous disiez, mais aussi perte d'énergie. C'est quand même dommage de passer toute cette énergie à faire sa place au lieu de la passer à faire de la science.
Ouais, le sexisme ordinaire, donc dans les mathématiques, ça, c'est quelque chose que vous avez éprouvé vous-même, enfin, d'après les témoignages aussi que vous avez recueillis.
Alors, ce qui a été très intéressant, c'est que pour faire cette bande dessinée, Indira Chatterjee, elle a fait un appel à témoignage à son entourage, et on a recueilli un grand nombre de citations. Il y en a, je les aurais moi-même jamais imaginées. Et puis,
par exemple,
il y en a une qui est extraordinaire, où il y a un homme qui dit à sa collègue, il y a déjà une telle concurrence en mathématiques que si en plus il y avait les femmes, ce sera encore pire, c'est pas la peine. Ah bah au moins les choses sont claires.
C'est voilà,
on préfère se battre entre hommes, comme ça on est moins nombreux. Si jamais il y avait des femmes compétentes, ce serait plus dur.
Ouais.
Bon
bah incroyable.
Les choses sont claires.
Mmh. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses aujourd'hui précisément? Parce qu'il y a des pistes, hein, évidemment, dans ce petit manuel, dont la couverture est dans des teintes rosées, mais ça c'est le clin d'œil humoristique
c'est
évidemment
ça.
Du dessinateur. Qu'est-ce qu'on peut faire alors au sein des équipes de recherche pour essayer de changer la donne un peu et avancer quand même sur ces dossiers?
Je dirais il y a deux dimensions. Il y a une dimension individuelle et il y a une dimension institutionnelle. Individuellement, bien sûr, quand on appelle sexisme le sexisme, quand on est capable de le reconnaître, et quand on n'a plus honte de dire « Non mais ça, je vois bien que c'est du sexisme, c'est pas que je suis quelqu'un de faible, mais c'est qu'il y a un système qui est en train de lutter pour faire en sorte que je parvienne pas », là déjà on peut progresser. Ça c'est individuel, c'est pas avec ça qu'on changera le monde, même si c'est indispensable. Les laboratoires, les institutions, l'éducation nationale, les universités sont capables d'avoir des modes de surveillance, des actions positives, un certain nombre de dispositifs pour éviter ce genre de situation.
Ouais. Problème de modèle aussi hein, pour les femmes, c'est ce que vous rappelez. Hein. Il n'y a pas de grandes figures féminines.
Trop peu.
Enfin, y en a, mais elles ont été soit occultées... Hein. Soit elles ne sont pas assez présentes sur le devant de la scène.
Voilà, typiquement, on parle sans arrêt de Marie Curie. Alors Marie Curie, c'est super, hein, c'est quand même l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire, Marie Curie, c'est deux prix Nobel. Se projeter dans Marie Curie quand on est jeune physicienne, faut avoir sacrément confiance en soi.
Ouais.
Néanmoins, cette histoire de modèle, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que, bien sûr, comme dans les figures de l'ombre, il faut mettre en avant ces femmes qui ont été poussées de côté, dont on a volé les découvertes, qu'on a oubliées, bien sûr. Simplement, il ne va pas suffire de placarder des images de femmes scientifiques partout pour éradiquer un système discriminant qui, depuis l'enfance, trie les compétences entre celles qui seraient masculines et celles qui seraient féminines.
Vous avez fait le pari de l'humour et du dessin pour essayer de faire passer le message?
Bah, pour une fois qu'on ne dira pas que les féministes n'ont pas d'humour. Hein.
Mais ça, là, c'est sûr.
Alors, mais par contre, on me dit, mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'on ne vous prenne pas au sérieux? Bah, si je suis trop sérieuse, je risque d'être agressive. Si je fais de l'humour, je risque d'être pas assez prise au sérieux. De toute façon, quitte à perdre, hein, on s'est amusé en faisant une BD.
Bon, il faut faire de l'éducation aussi, hein. C'est absolument nécessaire.
Je suis en sciences de l'éducation, je ne peux pas vous dire le contraire.
Sexisme man contre le sexisme, c'est vous Isabelle Collet avec FIP et c'est aux éditions Lapin, ce manuel très utile à offrir à ses collègues de travail
beaucoup
dans les labos de recherche.
Absolument.
Et publié. Allez, dans un instant, on part en Antarctique pour un projet également avec des femmes. Ah pardon, non, on part en Ohio pour commencer. Isabelle Adjani sur France Inter, vous êtes dans le club.1983, Isabelle Adjani à l'instant.
La tête au carré, le club, sur France Inter.
Gaia Della Riccia, vous êtes chercheuse en comportement animal et photographe, et donc vous venez nous présenter ce projet international qui vise à promouvoir la place des femmes dans le domaine scientifique et en particulier dans l'orientation des politiques environnementales. Vous allez donc partir dans quelques jours à peine en Antarctique avec 79 autres femmes. Homeward Bound, c'est le nom de ce projet, qu'on pourrait traduire comment d'ailleurs en français ?
C'est les retours à la maison, c'est les retours vers la mère Terre, essayer de s'occuper de cette planète, essayer de faire quelque chose activement, ouais, ensemble.
Sur quoi portent vos travaux, vous, d'abord, en tant que chercheuse ?
Ben moi, je travaille avec les oiseaux marins, donc des pétrels, ces oiseaux qui sont toujours en plein océan. Et j'essaye, au fait, de comprendre comment ils arrivent à s'orienter là où, apparemment, il n'y a aucun repère pour trouver les incroyables routes migratoires, ouais, ou simplement pour trouver l'île paumée où ils arrivent à nicher et à rentrer année après année, toujours au même endroit.
Ouais, ils sont capables de faire combien de kilomètres sans s'arrêter, comme ça, en restant toujours en vol ?
Ils s'arrêtent, les procellariformes s'arrêtent sur la mer de temps en temps, mais leurs trajets migratoires peuvent arriver jusqu'à plus de 60 000 kilomètres.
60 000 kilomètres. On a compris justement comment ils s'orientaient, ces oiseaux ?
Oh, il y a beaucoup de choses différentes, par les étoiles, par les soleils, mais là, ce dont moi je m'occupe, c'est l'odorat. Qui, au fait, pour les oiseaux, c'est quelque chose d'assez insolite. Mm-hmm. Mais au fait, on est en train de récolter. Il y a de plus en plus d'évidence qui montre que l'odorat, c'est un sens fondamental, au fait, pour construire une sorte des cartes, des maps en dessus de la surface de la mer avec plein d'odeurs différentes que nous, on ne peut absolument pas percevoir, mais qu'eux, ils utilisent pour arriver à se repérer là où on... tout appareil, ouais. Appareil similaire.
Ouais. C'est des vrais logiciels, hein, Isabelle Collet, hein, ces oiseaux finalement, avec toutes ces informations répertoriées. C'est fascinant. Hein.
Bah, ma foi, je ne savais même pas que les oiseaux avaient une de telles capacités d'odorat.
Ouais.
Ouais, là, les
comment vous les suivez? Vous mettez des balises, des choses comme ça?
On utilise, oui, des GPS pour arriver à les suivre. Après, on arrive à faire un peu d'expérimental aussi avec jouer un peu voilà, sur leur capacité d'odorat ou pas d'odorat et voir comment ils réagissent de manière différente selon les situations.
Alors là, vous revenez d'une mission en Australie hein, sur justement l'importance de l'odorat chez les manchots pygmées.
Ouais, les petits manchots bleus hein, en Australie. Et bien, pareil, on essayait de comprendre s'ils arrivent à aussi. Si eux, ils ont une capacité d'olfaction, parce que ça n'avait jamais testé, pour trouver la nourriture, ou en même temps pour essayer d'éviter des prédateurs introduits comme les chats et les renards, qui en Australie, c'est un grand problème, et essayer de voir s'ils arrivent à les éviter. Malheureusement, ce n'est pas trop le cas, c'est un peu trop récent l'introduction pour, par rapport au temps d'évolution après de ces manchots.
C'est des vrais serial killers, les chats, hein, d'ailleurs. Hein.
Ah oui, chats et renards, ça fait vraiment des très très grands dégâts, parce que ces manchots, comme l'autre faune locale, ne sont pas du tout habitués, ils n'ont pas du tout développé des systèmes pour les éviter et antiprédatoires par rapport à ces mammifères.
Espèce invasive, hein, le chat en Australie.
Hein. En Australie, le chat renard, c'est vraiment invasif, mais en Australie.
Alors, Gaia Della Riccia, on pourrait parler pendant des heures de votre thème de recherche, mais il faut évoquer ce projet qui vous tient à cœur sur la place des femmes en science. 80 femmes scientifiques donc, dans tous les domaines, toutes nationalités, envoyées donc en Antarctique dans quelques jours avec vous, pour suivre des formations, en fait, c'est ça l'idée?
Oui, alors, donc, comme vous disais, c'est un projet très interdisciplinaire. La base, c'est avoir une formation scientifique, mais en tout domaine. Les sciences, c'est pour avoir une formation liée aux faits, être capable d'aller voir les faits. C'est international parce que là, donc, entre les 80 femmes, on vient des 21 pays différents. Mmh. Et ça, c'est le monde à mon équipe. Ça, c'est un projet sur 10 ans. Pour moi, c'est la deuxième équipe. Et là, il y en a trois. La troisième vient d'être sélectionnée. Il y a déjà plus de 40 pays représentés. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un réseau qui autour de la planète, autour du globe, vraiment international pour pouvoir s'activer. Et l'autre aspect, c'est aussi un projet intergénérationnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite d'âge. Là, on va de 23 ans à plus de 65. Mmh. Donc, chacune apporte vraiment ses compétences, mais aussi ses expériences et son vécu pour être formée, comme vous disiez. Il s'agit d'une formation. Pourquoi? Parce que, en tant que scientifique, on est habitué à être dans notre petit cocon, qu'il soit les travaux des terrains avec les manchots, un laboratoire ou un autre chose. On communique d'habitude entre nous-mêmes. On va pas trop vers l'extérieur. Et ben là, si on veut essayer de faire passer un message et faire quelque chose d'actif, tout d'abord, il faut apprendre à communiquer et à sortir de notre petite bulle.
Et donc, le but, c'est de réunir 1000 femmes, c'est ça, à terme?
Oui, c'est sur 10 ans, c'est de créer un réseau de 1000 femmes formées et compétentes pour essayer de produire vraiment un changement.
Est-ce que ces femmes scientifiques qui vous ont déjà rejoint viennent principalement des sciences de l'environnement ou c'est beaucoup plus large que
ça?
Pas
du tout, c'est beaucoup plus large que ça parce qu'il y a des neurosciences, il y a des physiciennes qui s'occupent des trous noirs, il y a en même temps des femmes qui sont dans la communication scientifique, d'autres qui sont plus appliquées à l'agronomie, à les développements d'une agronomie durable. Il y a vraiment tout domaine représenté.
Alors pourquoi les femmes? Parce que ça prolonge évidemment la conversation qu'on vient d'avoir avec Isabelle Collet, mais je vous la repose quand même si on a bien compris.
Oui, comme on disait, déjà c'est un gâchis de ne pas nous inclure, mais surtout c'est que on peut apporter quelque chose de différent. Il y a une sensibilité et une vision qui souvent c'est pas tout à fait la même, sans tomber bien évidemment dans les stéréotypes. On parle des moyennes dans la population, mais il y a plus représenté par exemple un sens et une vision de ce qu'on laisse en héritage, quel est l'impact de toutes nos actions. Donc en ces moments et pour ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, pour tout ce qui est environnement, ça c'est très important à essayer d'apporter ce type de vision. Au fait, on cherche peut-être un peu moins un bénéfice immédiat, mais quelque chose qui soit plus sur le long terme dans les solutions. Mmh. Et en plus, il y a de plus en plus d'études au fait, qui montrent ça pour ce qui est entreprise, par exemple, mais pourquoi pas l'appliquer ici, que les plus là des diversités dans les équipes et au niveau des leaderships, les plus les entreprises deviennent efficaces et performantes. Donc, pas pourquoi le faire pour notre société.
Mmh, Isabelle Collet, je sais que vous avez beaucoup discuté avant l'antenne, hein, déjà avant l'émission, parce qu'il y a beaucoup de connexions entre vos différents sujets d'intérêt. Quel regard vous portez, vous, sur cette initiative ?
Bah, moi, je trouve ça formidable, parce que là, actuellement, on dit c'est une expédition 100% féminine, ce qui est le cas. Quand j'étais plus jeune et que je m'intéressais aux sciences, je voyais beaucoup d'expéditions d'équipes 100% masculines, mais jamais personne disait que c'était 100% masculine. Elles étaient juste normales. Mmh. Bon, le jour où on ne dira pas que c'est une expédition 100% féminine, mais qu'elle sera juste normale,
une expédition.
Mmh. Ça veut dire qu'il y aura eu suffisamment d'expéditions de ce genre pour qu'on ait atteint, on ait obtenu une parité ou une mixité dans les sciences. Mais en attendant, moi, je trouve ça formidable.
Mmh. Ouais. En attendant, il faut des initiatives comme ça.
Voilà. Ouais. L'autre chose importante, au fait, c'est que voilà, là, c'est un projet 100% féminine pour se retrouver et créer ces réseaux. Parce que voilà, une autre des caractéristiques, c'est justement la collaboration, l'effet des. Et c'est soutenir l'une avec l'autre pour être encore plus forte. On sait qu'il y a tous les groupes derrière. Mais après, bien évidemment, le but ultime, c'est celui d'arriver dans la société et d'arriver à travailler tous ensemble.
Mmh. Donc, c'est vraiment ce réseau de femmes leaders. Hein. C'est le terme que vous employez.
Oui, c'est l'idée des femmes leaders, d'être promotrice d'un changement, d'être promotrice des solutions différentes, essayer d'aller regarder quels sont les problèmes d'aujourd'hui, que ce soit les changements climatiques, la pollution, la scarcité d'eau, et
Stop, la scarcité d'eau, c'est quoi ? Vous avez dit ?
Oui.
Scarcité d'eau,
c'est scarcité.
Ça ? Qu'est-ce que c'est ?
Bah là, on commence à voir justement à cause de changements climatiques et des on utilise trop d'eau, oui. Et donc on commence à en avoir moins. Et là, par exemple, je vous fais un cas parce que c'est absolument d'actualité. En Afrique du Sud, à Cape Town, ils sont arrivés que dans 20 jours, ils ont fini l'eau. Mmh. Et donc ils sont avec des très grands soucis qu'ils savent pas comment donner à boire, et après, l'eau, on l'utilise pour n'importe quelle autre activité.
Donc, il y a différents thèmes de recherche.
Hein, il y a différents thèmes de recherche, et il y a différents sujets abordés. Et l'autre chose importante, c'est que aujourd'hui, avec les types de problèmes qu'on a à niveau global, on peut plus aborder un seul problème à la fois. Parce que si on s'occupe qu'est du changement climatique, par exemple, pour l'agriculture, on peut pas arriver à nourrir le monde entier. Mais si on développe une agriculture intensive, on va impacter sur les changements climatiques, sur la biodiversité, sur d'autres soucis. Donc, il faut vraiment avoir une vision globale de tous les problèmes en même temps, pour ce qui est possible, bien évidemment.
Gaïa Dallarecha, pour terminer, deux questions rapidement. Si on est chercheuse et qu'on vous entend aujourd'hui, est-ce qu'on peut postuler pour aller vous rejoindre ?
Oui, bien évidemment. Mm-hmm. Donc, la troisième équipe vient d'être annoncée la semaine dernière, mais si on regarde sur les sites internet de Homeworkbound, il y aura autres 7 équipes, année après année, qui vont être formées. Donc, absolument, oui, c'est vous la personne qui vous pouvez postuler parce qu'il faut juste y aller et tout le monde peut le faire.
Homeward Bound, hein, on le met en lien évidemment sur la tête au carré. Il faut embarquer Isabelle Collet avec vous.
Oui, absolument, ça sert à tout.
Absolument.
Exactement. Ça coûte combien ? Vous cherchez des moyens financiers aussi pour vous aider ?
Oui, parce
c'est cher,
que
en fait, la mission en Antarctique,
la mission
elle est
chère. C'est cher et la formation elle est très chère parce que c'est une formation vraiment très élitiste, de très haut niveau. Et en fait, comme partie à la formation, la moitié, que c'est plusieurs milliers d'euros, c'est à nous-mêmes de les financer. Et là aussi, c'est un peu sortir de notre zone de confort parce que il faut chercher des sponsors, il faut aller vers les gens, les entreprises ou les mécènes et trouver quelqu'un qui puisse nous aider à réaliser ces rêves.
Bon, ceux qui nous écoutent, ils passent par le site également pour vous donner un coup de main, financer ce projet qui partira un mois en Antarctique et qui file sur 10 ans. Hein. Donc,
oui,
en plus,
c'est un projet sur les très longs termes. Ça, c'est que les débuts, au fait.
Ouais, on mettra toutes les infos. Donc, c'est ce site homewardbound.com.
quelque chose
.com.au. Mm-hmm. Et sinon, il y a mon propre site internet qui est gaiadelaricha.wordpress.com.
Voilà, et on le met aussi en lien sur La Tête au Carré. Ce sera plus facile d'aller cliquer directement pour vous aider.
Oui, c'est plus facile.
Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Bon retour. Et puis Isabelle Collet, Sexy Man, c'est aux éditions Lapin. Merci à toutes les deux d'être venues dans ce club. À bientôt.
Merci.
Merci.
C'est terminé pour notre Tête au Carré aujourd'hui. Dans un instant, Affaires Sensibles, comment Yves Saint-Laurent démocratise le pantalon. Ce sera avec Fabrice Ruel. Et puis merci à Ludovic Asselot et Anne-Laure Cochet qui étaient à la technique.